Merci d'écouter RFI, 13h en temps universel. Il est 15h ici à Paris.
RFI midi.
Une demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain avec Haïti à la une. Haïti où le système de santé est de plus en plus ébranlé par les violences qui secouent la capitale. Même au nord du pays, à Cap-Haïtien, où nous retrouverons nos envoyés spéciaux. Nous serons aussi en ligne dans quelques minutes avec le rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste. Nous irons aux États-Unis où le nombre de sans-abri bat des records. Et puis, comme chaque jour, nous parlerons des Outre-mer avec vous, Serge Massot. En Guadeloupe, où le ministre de l'Intérieur annonce la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs.
Oui, car selon Gérald Darmanin, les jeunes de moins de 18 ans sont impliqués dans un tiers des actes de délinquance en Guadeloupe.
A tout à l'heure, Serge Massot. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes et tout de suite, on va faire le point sur l'actualité internationale.
RFI Midi.
Avec vous, Mayelle de Charon, bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous.
Les États-Unis imposent de nouveau à partir d'aujourd'hui des sanctions contre les secteurs pétroliers et gaziers du Venezuela.
Elles avaient été suspendues par Washington il y a près de 6 mois après les accords passés entre le pouvoir chaviste et l'opposition pour garantir des élections libres. Mais à 3 mois du scrutin pour Washington, le compte n'y est pas. Le président vénézuélien Nicolas Maduro n'a pas joué le jeu. Sa rivale de l'opposition de droite, Maria Corina Machado, n'a pas été autorisée à se présenter à la présidentielle, pas plus que sa suppléante. Les sanctions américaines sont donc de retour, mais le pouvoir chaviste contre-attaque et minimise la portée de cette décision. Michael Ponge.
L'annonce était attendue, elle a été anticipée sur les réseaux sociaux d'abord, à coups de hashtag pour dénoncer la décision américaine et accuser le grand rival de manquer à ses engagements.
Señor Nichols. Ustedes acaban de dar un tiro en el pie.
Avec une conférence de presse d'abord, c'est Jorge Rodriguez, le président de l'Assemblée nationale, qui hier s'est défendu. Non, jamais le régime ne s'est engagé à permettre à ceux qui avaient violé la Constitution de participer aux élections. Une allusion directe à Maria Corina Machado. Une fois le discours terminé, c'est Nicolas Maduro en personne qui est apparu en déplacement à la télévision nationale.
Siempre me pregunto.
Je m'interroge toujours face aux menaces, aux sanctions. Ils croient nous faire peur. Il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de menace qui aujourd'hui va nuire à l'effort de construction d'un nouveau modèle économique productif. Aujourd'hui, dans ce monde, nous ne dépendons de personne. Nous ne dépendons que de nos propres efforts.
Le message de la vigueur qui tranche avec la réalité. De 3 millions de barils par jour, la production pétrolière du pays avoisine à présent les 850 000 barils, d'après les données du géant public PDVSA.
Michael Ponge. L'éventuelle aide américaine à l'Ukraine ne changera rien. Déclaration du Kremlin aujourd'hui, alors que les élus américains doivent se prononcer samedi sur le déblocage d'une enveloppe de 61 milliards d'aides militaires et économiques pour Kiev. L'Ukraine réclame inlassablement à ses alliés occidentaux plus de munitions et de systèmes de défense antiaérienne. Hier, une triple frappe a causé la mort de 18 personnes à Tchernigiv, grande ville du nord du pays. Et ces frappes visent également les infrastructures énergétiques de l'Ukraine, les entreprises du pays sont appelés à limiter la consommation d'électricité. Le ministère ukrainien de l'énergie demande aux industriels mais aussi aux particuliers de réduire l'utilisation d'appareils électriques entre 19h et 22h. Selon Kiev, 80% des capacités de génération électrique nationale sont endommagées. L'Équateur, lui aussi, est confronté à un manque d'électricité face à un déficit énergétique qualifié d'historique. Les habitants subissent des coupures de courant 8 heures par jour. Le gouvernement a d'ailleurs décrété ce jeudi et vendredi chômé pour rationner l'électricité. À l'origine de ces pénuries, le manque de pluie. Les détails avec notre correspondant en Équateur, Eric Sanson.
Avril, aguas mil, en avril, les eaux sont à mille. Ce dicton populaire n'est plus d'actualité en Équateur. Alors que le mois d'avril est traditionnellement très pluvieux, cette année, les pluies sont insuffisantes. Dans les deux principaux barrages du pays, les réserves d'eau disponibles pour les centrales hydroélectriques sont de 0% à Mazar et 4% à Pauté. Autant dire, il n'y a plus de marge de manœuvre, d'autant que la Colombie a cette semaine mis fin à ses exportations d'électricité vers l'Équateur, car elle souffre elle aussi de sécheresse. À 4 jours du référendum sur la sécurité, où le président Noboa joue une partie de son futur politique, le gouvernement est sous le feu des critiques. La crise en effet n'est pas récente. Les premiers rationnements ont eu lieu en octobre, et les autorités avaient annoncé la fin de la crise en février. Malgré de nombreuses déclarations optimistes, de nouvelles coupures d'électricité ont cependant eu lieu en avril. Le président équatorien a du coup dénoncé les dissimulations de nombreux responsables de l'État, à commencer par la ministre de l'Électricité, Andrea Robo, dont il a demandé la démission. Daniel Noboa est allé plus loin en annonçant l'ouverture d'une enquête du parquet contre 22 saboteurs présumés. Éric Sanson, Quito, RFI.
En France, Gabriel Attal prône un sursaut d'autorité auprès d'une partie de la jeunesse. Le Premier ministre en déplacement à Viry-Châtillon pour ses 100 jours à Matignon promet une solution rapide à ce qu'il qualifie d'addiction à la violence. C'est dans cette ville de la banlieue parisienne qu'est mort il y a deux semaines un adolescent de 15 ans passé à tabac près de son collège. Le Premier ministre a affirmé que tous les collégiens seront scolarisés tous les jours de la semaine entre 8h et 18h. Une commission doit également rendre à la fin du mois des propositions pour réguler la dépendance des jeunes aux écrans. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ordonne lui un couvre-feu à Pointe-à-Pitre pour enrayer les crimes et délits violents qui frappent la Guadeloupe depuis le début de l'année. Effectif à partir de 20h, il doit être mis en place la semaine prochaine et concernera les moins de 18 ans. Une annonce saluée par le maire écologiste Harry Durimel qui avait qualifié sa ville de coupe-gorge en faillite totale à la fin du mois dernier. Les services de secours mobilisés en Indonésie pour évacuer plusieurs milliers de personnes menacées par un volcan en éruption dans le nord de l'archipel. Le volcan Ruang, situé sur une petite île de la province du nord de Célèbes, il a connu 5 éruptions depuis mardi et projeté un nuage de cendres à plus d'un kilomètre de hauteur dans le ciel. Des maisons d'une île voisine sont criblées de trous dus à la chute de roches volcaniques. Les autorités mettent également en garde contre un risque de tsunami rendu possible par l'effondrement de la masse du volcan dans la mer. Cinéma à présent, c'est un film choc Civil War qui a pris la tête du box-office aux États-Unis dès son premier week-end d'exploitation vient de sortir en France. Réalisé par le Britannique Alex Garland, il suit le périple de 4 reporters de guerre qui traversent une Amérique en proie à la guerre civile. Sophie Torlotin.
La Maison-Blanche met en garde les forces de l'Ouest et l'Alliance de Floride.
La Californie et le Texas ont fait sécession. Le président, qui a modifié la Constitution pour un troisième mandat, est retranché dans la Maison-Blanche. Le FBI a été démantelé et des drones attaquent les civils américains. C'est dans ce contexte que 4 reporters décident de traverser plusieurs États pour obtenir un scoop, une interview du chef d'État autoritaire avant la chute du gouvernement fédéral.
Dans la capitale, il tire à vue sur les journalistes.
Civil War n'aborde pas les raisons politiques ayant conduit au déchaînement de violence, mais le Britannique Alex Garland raconte avoir été durablement marqué et inspiré par l'attaque du Capitole en janvier 2021 par les partisans de Donald Trump. Ce blockbuster indépendant ne montre donc pas la polarisation extrême des opinions américaines, mais il décrit avec réalisme le chaos et la brutalité aveugle qui menacent les États-Unis. Ces scènes de guerre spectaculaires frappent durablement les esprits et ont pour objectif de vacciner les spectateurs contre la division de la société quelques mois avant la prochaine élection présidentielle américaine.
Sophie Torlotin. Et puis en football, après la qualification du PSG en Ligue des Champions mardi, l'OM va à son tour tenter de se hisser ce soir dans le dernier carré d'une Coupe d'Europe, celui de la Ligue Europa. Une tâche qui ne s'annonce pas évidente après sa défaite en quart de finale aller 2-1 face à Benfica. OM Benfica, c'est donc à suivre en intégralité sur RFI à partir de 19h, temps universel ce soir. RFI, il est 15h08 à Paris. RFI Midi continue avec Anne Cantner.
Merci Mayelle de Charon. On va parler, nous, pendant les 20 prochaines minutes de l'actualité en Haïti et sur le continent américain.
RFI Midi, Cap Haïtien, 100.5 FM.
Nous évoquons chaque jour ici la violence, l'insécurité, la crise alimentaire, économique, humanitaire dans la capitale haïtienne et dans ses environs. Et bien cette crise, ces crises ont des répercussions jusque dans les zones plus calmes. Ici à Cap-Haïtien, à l'hôpital universitaire Justinien, en service minimum et sans les médicaments et le matériel suffisant. Écoutez le reportage de nos envoyés spéciaux Vincent Souriot et Boris Véchit.
Une écolière encore en uniforme, 16-17 ans, elle vient de s'évanouir, portée à bout de bras jusqu'à la salle d'observation. Elle convulse. Que faire? Pas de moniteur cardiaque, pas de tensiomètre. La seule ressource de Ryslin Désir, le médecin des urgences, c'est son stéthoscope.
Malheureusement, on n'a rien ici. Malheureusement, on n'a pas d'oxygène disponible au sein du service pour pouvoir faire un suivi pour elle.
Avant la crise sécuritaire, l'hôpital dirigé par Jean Gétaud-Dubé fonctionnait déjà à flux tendu. Aujourd'hui, les troubles qui touchent Port-au-Prince affectent directement la survie de ses patients.
Donc si, par exemple, on n'a pas des intrants anesthésiques, on achète encore à Port-au-Prince. Donc ça veut dire que ça a des répercussions sur le fonctionnement du bloc opératoire et de trait sur le nombre d'interventions qu'on pouvait faire, par exemple, au cours de la journée.
Le nombre de consultations a grimpé en flèche et l'inquiétude au sein de cet établissement public, c'est que le coût de la prise en charge s'envole pour des malades qui n'ont déjà plus un sou. Vincent Souriau, Boris Vichit, Cap Haïtien RFI.
Et la situation est encore pire à Port-au-Prince. Nous allons en parler avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
Votre journal s'est rendu à l'hôpital universitaire La Paix et on revient avec ce constat, sentir l'insécurité dans sa chair.
Tout à fait. Le Nouvelliste a été à l'hôpital La Paix. L'hôpital La Paix, c'est le deuxième hôpital universitaire de la région de métropolitaine de Port-au-Prince. L'autre hôpital, l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, est fermé. C'est 450 lits qui manquent. L'hôpital La Paix, c'est à peu près 200 lits. Et nous avons pu constater le travail difficile des médecins pour faire le tri de qui pourra rentrer dans une salle, qui pourra être hospitalisé et qui sera renvoyé chez lui parce que l'hôpital est totalement dépassé. Il n'y a plus de place. Il n'y a pas d'intrants. Il n'y a pas assez de médecins. Il n'y a pas assez de capacité pour prendre en charge de nouveaux blessés, de nouveaux malades. Alors chaque jour, les malades arrivent et les médecins doivent faire le tri. Qui aura la chance de voir un médecin et qui doit retourner chez lui?
Et dans ce contexte, un pas vient d'être fait vers la mission multinationale qui est attendue depuis plusieurs mois maintenant. Alors elle est toujours suspendue par le pays qui doit en prendre la tête, le Kenya. Mais un autre pays africain avance, et pas des moindres. Le Bénin vient de nommer son directeur des renseignements au poste d'envoyé spécial en Haïti. Et il confirme, Jean-Luc Aplogan, qu'il fournira bien 2000 hommes pour aller soutenir la police haïtienne face au gang.
Le relevé du Conseil des ministres qui annonce sa nomination ne dit rien sur sa lettre de mission, mais sa première urgence sera de préparer l'arrivée de 2000 militaires béninois. Ses interlocuteurs dans cette mission seront les partenaires haïtiens et internationaux comme les États-Unis, le Brésil, le Canada et la Jamaïque, tous acteurs de la mise en place de la force multinationale. Les contours de la préparation des béninois sont connus. Les 2000 hommes viennent essentiellement des forces armées béninoises, à savoir les armées de terre, de l'air, la marine et la garde nationale. Il est possible qu'un effectif très réduit de policiers complète le contingent qui, avant de partir à Port-au-Prince, bénéficiera d'une formation assurée par des instructeurs béninois et étrangers. On ignore toujours le calendrier du déploiement, le financement serait en cours et selon nos informations, les acteurs principaux de l'opération préparent une réunion imminente. Pamphile Zomaou, l'envoyé spécial du Bénin en Haïti, prendra rapidement ses fonctions, indique une source. Âgé de 53 ans, il est colonel de la gendarmerie, formé à Saint-Cyr et à Melun, en France. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et en Haïti, les appels se font de plus en plus pressants pour que cette force soit enfin déployée. Franz Duval, vous êtes toujours en ligne avec nous. Votre journal, Le Nouvelliste, publie justement une lettre des principales associations patronales adressée au président kényan pour l'interpeller sur cette mission multinationale.
Il faut dire que c'est la première fois que le secteur privé haïtien dans son ensemble, y compris les très très grands patrons, ceux qui souvent ne parlent pas, signe une lettre pour prendre position clairement pour le déploiement de la mission multinationale. Cela arrive dans un contexte où le conseil présidentiel va être installé bientôt, mais aussi dans un contexte où le conseil présidentiel est divisé sur le déploiement de cette mission, même si dans la feuille de route qui avait été conclue le 11 mars dernier lors de la réunion de la CARICOM, tous ceux qui allaient devenir membres du conseil présidentiel devaient s'engager pour que la mission se déploie, mais le Nouvelliste est au courant qu'il y a des divergences, certains sont d'accord, la majorité serait même contre, et c'est dans ce contexte que le secteur privé haïtien a pris sa plume pour écrire au président kényan pour demander le déploiement dans un délai très court de cette mission, la mission dont le mandat va bientôt s'achever en juin prochain. Et il faut dire qu'on doit essayer de se presser si on veut voir un jour la mission se déployer. Pour ce qui se dit au Bénin, pour le moment, Haïti n'est pas vraiment informé et personne n'a encore pris position à ce sujet. Il faut dire aussi que la diplomatie haïtienne est en panne. Ça fait un mois et demi que le gouvernement est quasiment à l'arrêt et personne ne parle vraiment des initiatives qui sont prises ou pourraient être prises pour accélérer ou bien pour préciser ce qui se passe avec le Bénin et Haïti.
Franz, vous écrivez aussi que pour faire face aux attaques de gangs, on voit apparaître de plus en plus de barrières dans les quartiers de la capitale.
Des fois, ce sont de simples barricades dérisoires. Des fois, ce sont de vraies barrières en fer forgé que les gens se cotisent pour ériger. Il faut dire que chaque quartier essaie de se protéger de l'invasion des gangs, de se protéger des intrus, de se protéger de ceux qui arrivent, font des rapines et repartent très vite. Alors, certaines barrières sont fermées à clé, d'autres sont tout simplement gardées par quelques vigiles. Mais de plus en plus de quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince érigent des barrières de toutes sortes, mais pour essayer de se protéger de ces gangs qui sont maîtres de la ville en quelque sorte. Il n'y a pas de policiers derrière ces barrières, ce sont tout simplement des résidents de la zone qui essaient de mettre un peu d'ordre, de protéger leurs biens, de protéger leur vie avec des barrières. C'est des barrières fleurissent à Port-au-Prince.
Merci Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Tous ces articles sont donc à lire dans votre journal, sur le site aussi, lenouvelliste.com, et on vous retrouvera jeudi prochain. Un mot encore d'Haïti et de l'incertitude qui plane toujours sur la reprise des vols vers et depuis les États-Unis. Tout est suspendu depuis le 4 mars dernier et selon le journal Miami Herald, mieux vaut ne pas faire de plan de voyage avant le mois de mai. Le quotidien américain indique que les compagnies basées aux États-Unis évitent toujours Port-au-Prince. American Airlines avait bien indiqué qu'elle reprendrait ses vols quotidiens hier, mais table désormais sur le 2 mai au mieux pour rétablir la liaison entre Miami et la capitale haïtienne.
RFI, la radio del mundo.
Nous en parlions il y a quelques minutes dans le journal. Les États-Unis ont mis fin à une exemption de sanctions contre le Venezuela. Les mesures contre les secteurs pétroliers et gaziers se durcissent donc à partir d'aujourd'hui. Elles avaient été suspendues après les accords trouvés il y a 6 mois entre le pouvoir et l'opposition, jugés de bon augure par Washington. Mais depuis, pas d'autres signes d'ouverture politique. Au contraire, la candidate de l'opposition, Maria Corina Machado, a été écartée de la course à la présidentielle de juillet, tout comme sa suppléante. Et d'ailleurs, l'opposante ne s'est pas privée hier de dénoncer lors d'un meeting le double jeu du régime Maduro.
Le régime a violé tous les accords qu'il avait conclus. Il n'a pas respecté ce sur quoi il s'était engagé. Au contraire, il a intensifié la répression, il a incarcéré davantage de personnes, il a persécuté, il a empêché l'opposition de participer au processus électoral. En somme, tout ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas. Pendant ce temps, de l'autre côté, nous avons respecté nos propres accords, y compris moi-même. C'est un problème du régime, c'est lui qui n'a pas respecté les accords. Et nous irons de l'avant, ils ne nous excluront pas du chemin électoral. On dit qu'on veut une forte abstention. Pourquoi voudrions-nous l'abstention alors que nous avons 80% de soutien dans les sondages contre 20% qui soutiennent Maduro?
L'opposante Maria Corina Machado, interrogée en marge d'un meeting qui se tenait hier en banlieue de Caracas en vue donc de l'élection présidentielle prévue au mois de juillet au Venezuela.
RFI Midi.
L'actualité du continent, c'est aussi ce nouvel assassinat en Équateur. Pour la 4e fois en un an, un maire a été tué par balle dans sa ville minière du sud du pays et ce, à quelques jours d'un référendum national sur la sécurité. Toute une série de réformes voulues par les autorités pour endiguer la crise sécuritaire. Nous y reviendrons demain à cette heure-ci, donc à partir de 13h, temps universel. Et pour l'heure, direction les États-Unis. Les États-Unis, où la Cour suprême doit se pencher ce mois-ci sur une affaire qui pourrait modifier le statut des sans-abri. Une audience aura lieu dans quelques jours et pourrait criminaliser le fait de dormir dans la rue. L'enjeu est important car le nombre de personnes sans domicile a atteint un record l'an dernier. Plus de 653 000 personnes dorment dans la rue aux États-Unis. 40% d'entre elles ne bénéficient même pas d'un hébergement d'urgence. Cela faisait près de 15 ans que les sans-abri n'avaient pas été aussi nombreux. Et pourtant, Laura Legault, plusieurs grandes villes ferment les centres d'accueil d'urgence.
L'Armée du Salut possède près de 560 hébergements pour les sans-abri à travers les États-Unis. En 2023, l'organisation a aidé plus de 8 millions de personnes, un chiffre qui n'a cessé d'augmenter. Pourtant, avec la hausse généralisée des prix, elle a dû faire face à des coûts de fonctionnement de plus en plus élevés. Conséquence, l'Armée du Salut a été contrainte de fermer plusieurs établissements, comme l'explique le commissaire Kenneth Hooder, président national de l'organisation aux États-Unis.
Au cours des deux dernières années, nous avons fermé 50 hébergements pour sans-abri. Mais dans le même temps, nous avons aidé 250 000 personnes de plus. Les coûts associés à l'approvisionnement, au personnel, à l'équipement des hébergements, Tous ces coûts ont dramatiquement augmenté au cours des dernières années. Cela fait pression, pas seulement sur l'armée du salut, mais sur toutes les organisations et les gouvernements locaux qui essayent de proposer des hébergements aux sans-abri.
Pour accueillir les sans-abri dans des hébergements d'urgence, les organisations comme l'Armée du Salut se reposent essentiellement sur des dons ou des subventions locales. L'aide du gouvernement fédéral est quasi inexistante, excepté pendant la pandémie. Problème, alors que le Covid-19 est en recul, les hébergements perdent le soutien financier de l'administration américaine, raison pour laquelle nombre d'entre eux sont contraints de fermer leurs portes. Barbara Pop était, sous la présidence Obama, la directrice du Conseil interagence chargé de la lutte contre le sans-abrisme.
Alors que la pandémie prenait fin, des villes ont fermé des hôtels qui avaient été utilisés en tant que refuge pour sans-abri. Certaines mesures d'urgence mises en place à ce moment sont en train de disparaître. L'arrêt de ces subventions est définitivement la plus grosse perte de revenus pour les hébergements d'urgence.
Les places en hébergement d'urgence se font rares. Pourtant, les personnes à la rue sont de plus en plus nombreuses, notamment en Californie et dans l'État de New York.
Le nombre de sans-abri a augmenté de 12% et cela s'explique par un simple calcul. Nous voyons que beaucoup d'Américains à travers le pays ont des difficultés à payer leur loyer, car les loyers ont énormément augmenté. Dans le même temps, l'offre de logements abordables pour ceux qui ont des salaires bas a diminué alors que de plus en plus de personnes ont besoin de ces logements. Il manque environ 7 millions de logements pour les personnes aux plus bas salaires. Donc un simple calcul montre qu'il n'y a pas assez de logements que les gens peuvent se payer.
Une équation difficile à résoudre, à laquelle s'ajoute la pression migratoire. L'année 2023 a atteint un record. Les arrivées de migrants sur le sol américain ont explosé, rappelle Brendan O'Flaherty, économiste à l'Université de Columbia à New York.
Une des raisons de l'augmentation du nombre de sans-abri est l'arrivée en masse de demandeurs d'asile qui sont répartis sur tout le pays, en particulier dans la ville de New York. Il représente des dizaines de milliers de personnes.
La pression est d'autant plus importante qu'au cours des derniers mois, les gouverneurs républicains du Texas et de l'Arizona, deux États du Sud, ont envoyé par bus des milliers de migrants en direction de New York, Washington ou Los Angeles. Ces migrants sont utilisés comme armes politiques contre ces villes à majorité démocrate.
Laura Legault, toujours aux États-Unis, le ministre chargé de l'immigration échappe à la destitution. Alejandro Mayorkas a réussi à sauver son poste hier face aux élus républicains qui l'accusent d'avoir provoqué une crise à la frontière avec le Mexique. Mais dans quelques heures seulement, le Sénat, à majorité démocrate, a estimé que tout ceci était infondé. Un mot encore des États-Unis pour vous dire que le procès de Donald Trump reprend aujourd'hui à New York, procès historique. C'est la première fois qu'un ancien président comparaît devant la justice pénale. Reprise avec la perspective d'une constitution du jury d'ici à la fin de la semaine, cela permettrait d'ouvrir la voie au débat de fond. 7 des 12 jurés nécessaires avaient déjà prêté serment mardi soir. Avant une pause d'une journée du procès, le juge a indiqué qu'il espérait clore tout le processus de constitution du jury d'ici donc à vendredi.
RFI Midi.
L'actualité des Outre-mer à présent avec nos confrères de La Première. Bonjour Serge Massot.
Bonjour Anne.
À la une, la lutte contre la délinquance qui est au centre d'une visite express du ministre de l'Intérieur en Guadeloupe.
Oui, car depuis le début de l'année, la Guadeloupe a recensé 10 homicides par arme à feu. Gérald Darmanin a donc annoncé hier un couvre-feu pour les mineurs qui sera mis en place à partir de 20h dès la semaine prochaine et durant 2 mois afin d'enrayer la délinquance des mineurs. Écoutez-le.
Il y a eu 200 policiers et gendarmes supplémentaires depuis que je suis ministre de l'Intérieur en Guadeloupe. Il y a 3 nouvelles brigades de gendarmerie qui vont s'installer. Mais je constate aussi que la délinquance en Guadeloupe, c'est à la fois une délinquance de plus en plus de fait des mineurs. 30% des actes de délinquance sont le fait de gens qui ont moins de 18 ans. Je rappelle qu'il y a 5 ans, c'était moins de 10%. Il y a donc manifestement un sujet autour des mineurs, de la responsabilité des parents, du travail qu'on peut faire, non pas en tant que policier, mais en tant qu'éducateur.
Le ministre de l'Intérieur au micro de Jordi Rayapin de Guadeloupe La Première. En Martinique, un cadavre en état de décomposition avec la tête coupée retrouvée dans un magasin au Lamantin. Les voisins ont donné l'alerte suite à une odeur suspecte. Il s'agit du corps du commerçant. Une enquête a été ouverte. Et puis en Guyane, c'est une femme et ses 2 enfants qui ont été retrouvés morts. Victime probable de l'homme qui vivait avec eux. Des voisins évoquent des violences conjugales récurrentes. Laurent Marot de Guyane La Première.
À la mi-journée, les gendarmes sont alertés de
plusieurs décès, quartier Sainte-Agathe à Macouria. Les corps d'une femme et de deux enfants de moins de 10 ans sont découverts dans un local poubelle près d'un bâtiment où ils vivaient. Il pourrait s'agir d'une mère et de ses enfants, selon les témoignages d'habitants que nous avons recueillis sur place. Des victimes tuées à l'arme blanche, le meurtrier présumé a été retrouvé gravement blessé, des habitants disent avoir entendu une détonation, une ou plusieurs personnes du quartier auraient pu vouloir empêcher l'auteur présumé de s'enfuir. L'homme, âgé de 26 ans, a été évacué vers l'hôpital de Cayenne. Il était sorti de prison en novembre après une incarcération pour des faits de violence.
Et la Guadeloupe s'apprête à accueillir la flamme olympique. Ce sera le 15 juin prochain. Et pour l'occasion, un agriculteur bio a décidé d'inscrire dans son verger le slogan de l'île « Guadeloupe, terre de champions » grâce à des arbres fruitiers plantés par des écoliers de la commune. L'agriculteur en question, Félix Combe, est au micro de Josiane Champion.
Il y a une flamme olympique qui passe, donc on s'est dit, on va graver au sol, Guadeloupe, terre de champion. On a planté des arbres fruitiers qu'on a historiquement en Guadeloupe, la goyave qui est la base. On a planté du coureau au sol, on a planté du montbain. Donc pour pouvoir faire en sorte qu'au mois de juin, la lettre soit déjà bien verte, le contour des lettres a été fait avec de la citronnelle. Et au milieu, pour accompagner les arbres, on a planté des groseilles et des pois de bois. Terre est plantée avec des essences de couleurs différentes pour faire comme les anneaux olympiques. Donc terre, 5 lettres, 5 anneaux. Donc on a choisi les 5 couleurs des anneaux. On a la chance en plus d'être dans le couloir aérien. Quand vous sortez d'un vol grande ligne, vous passez forcément sur l'exploitation. Donc l'idée, c'est que ce soit visible de l'avion.
Voilà, Guadeloupe, terre de champion à voir depuis le ciel. C'était des propos recueillis par Josiane Champion. Fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Serge Massot. On vous retrouve demain pour l'actualité des Outre-mer. Merci à tous d'être avec nous. De la musique, avant de se quitter, celle de David Walters. À seulement 47 ans, il a déjà vécu 3 vies. Athlète de haut niveau, animateur de télé et musicien donc. C'est comme un... C'est le mot bas, on brille tout bas, on plairait tout bas, c'est plairait bas. Senti la peau, moi c'est le corps, déjà tout ça, plairait, moi c'est plairait bas. Pas nous l'autre chance, dis-moi, ah ouais, l'air ou pas donné, moi, ah ouais, on garde son doux, dis-moi. Le dernier titre de David Walters, celui qui se définit lui-même comme un négro métropolitain. Merci à tous d'écouter RFI. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Yann Eligouin qui était à la réalisation. Vous restez avec nous dans quelques secondes maintenant de vive voix. Pascal Paradou s'interroge sur les dynamiques et les évolutions langagières dans l'espace francophone.
Qui ça nous fait pour sauver comme nous.